www.radio-g.fr.
Il est 19h et comme tous les lundis, c'est l'heure de la case de Seb. Attention, générique sur le son.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, comme je le disais, on a fait un faux départ, hein, on essaie de nouvelles choses. Là, je fais une espèce de long roll, vous allez voir, ça va être plus simple pour nous à gérer, ça va pas vous faire grand chose en termes de différence. Bref, chers auditeurs, il est 19h et comme tous les lundis de 19h à 20h sur le 101.5 de Radio G, c'est l'heure où la case de Seb vous réjouit les yeux par l'intermédiaire le truchement des ondes radiophoniques directement dans vos oreilles. On vous parle des plus belles BD, du plus beau manga et des plus beaux comics. C'est parti, ça roule Anthony?
Ah oui, ça roule dur, ça roule fort.
Ça roule, parle bien dans le micro.
Il n'y a absolument plus de respect, du coup tu diras truchement tous les lundis alors.
Et alors?
D'accord, on est mal barré.
Tu veux qu'on reparle de Piranésien?
Non.
Bon.
C'était une période douloureuse de ma vie que j'ai terminée.
Par le truchement piranésien des ondes radiophoniques. Allez, fini parce que sinon les gens ils vont croire qu'on ne fait qu'une émission juste pour nous deux alors qu'en fait on est là pour leur parler de belles choses. Je ne fais pas vraiment faire de petits génériques news parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais il y a eu une petite chose il n'y a pas très longtemps que je ne savais pas. Est-ce que tu connais le manga Innocent?
Ça me dit quelque
chose,
oui.
C'est publié par Soleil de Mémoire. C'est un manga qui parle de la famille de Charles-Henri Sanson, les pourvoyeurs des hautes œuvres pendant la... je ne sais plus quelle période, enfin, les bourreaux en fait du roi en France. Et du coup, c'est un manga qui parle de cette famille-là, qui a une espèce de... une façon de le présenter qui est assez particulière. Et il faut savoir qu'il existe une comédie musicale basée sur ce manga. Alors, je sais que les Japonais se raffolent de beaucoup de comédies musicales. Oui.
Il me semble qu'on avait chroniqué une BD qui s'appelait justement Les Sansons aussi, qui en parlait, non?
Oui, ça parlait de la même famille.
Exact.
Les Sansons et l'amateur de souffrance... de l'ami Boris Beuzelin qu'on salue. Non, là en fait ça parlait effectivement de cette famille, alors qu'une famille un peu mythique. Et puis comme toute la partie royauté fascine pas mal le Japon, bah, c'est un manga qui a bien fonctionné, donc comédie musicale qui a fait une tournée au Japon de manière assez intéressante. Et il faut savoir qu'il devait y avoir une représentation à Paris et qui a été annulé pour une raison que j'ignore complètement. Bah mais non, on a appris l'annulation. Alors du coup, j'avoue que j'aurais été extrêmement curieux de découvrir cette comédie musicale.
Ouais. Il y a un pan de l'histoire française qui, cette fois-ci, n'est pas retransmis par des metteurs en scène français, mais japonais. Ça pourrait être rigolo de découvrir la vision qu'ils ont de notre histoire. C'est dommage.
Lis-le, le manga, tu vas voir. Ça vaut un petit peu le coup.
Et t'as dit que c'était présenté d'une manière peu conventionnelle?
Comment dire, c'est un peu trash et du coup on ne nous ménage pas en fait. Il y a une décapitation, tu vois la décapitation et puis il faut savoir que le personnage principal, dans les Sansons et la matière de souffrance, il pouvait disposer en fait du corps des condamnés à mort et voir comment ça marchait dedans. Et du coup nous on voit aussi en fait.
Un peu comme Léonard de Vinci à la Renaissance quoi.
Ouais, c'est ça. Complètement. Allez, on est parti pour de bon pour ce soir. Moi, j'ai pas mal de BD. Toi, t'as un petit manga. On va essayer de trouver un juste milieu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu...
Je te propose de commencer. Ouais. Et puis moi je vais découvrir les BD en même temps que tu as ramené, parce que je ne les ai absolument pas vus avant. Donc peut-être que j'aurai des questions à te poser ou des réactions à avoir.
Ok. Alors je commence avec Crépankin, volume 1 sur 2, ça s'appelle Marqué par les dieux, c'est chez Spaceman Project, et c'est de Caro Varro et Garbunka. Alors, décrire Crépankin, c'est un petit peu complexe, puisque c'est un univers qui est assez dense. Donc Crépankin, c'est une ville dans laquelle vivent des gens, et... les jeunes femmes, enfin les jeunes ou moins jeunes femmes, peuvent être victimes d'une malédiction qui va transformer leur index droit en une sorte de baguette magique.
Okay.
Donc on se dirait, ah, c'est plutôt cool en fait. Ouais, j'ai une malédiction, mais d'accord, j'ai des super pouvoirs après. Ben non, parce qu'en fait, cette magie fait qu'à chaque usage, les gens vont devenir un petit peu fous, voire de plus en plus. Alors ça a l'air un petit peu bordélique, hein, la façon dont je l'aborde. Il faut savoir que c'est l'impression globale que j'ai eue du bouquin, que c'était un peu chaotique. Ça se lit bien, c'est super beau, je n'enlève pas le plaisir que j'ai eu à le lire, mais c'est vrai qu'on a une impression un petit peu chaotique, un peu... comment dire ?
Désordonnée,
bah pas forcément, oui. Mais le fait que l'écriture, elle s'est faite en jetée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'écriture se fait, on a une trame générale, mais on va ajouter des éléments. Et du coup, ça donne cette impression un petit peu fouillis.
D'accord, ouais.
Alors que globalement, ça fonctionne très très bien. Hein. On sent qu'il y a vraiment une trame générale qui a été créée et qui est suivie de bout en bout. Et du coup, on suit en fait l'histoire d'une jeune fille, une femme qui va se retrouver maudite et qui dont le fils va tenter de tout faire pour lever cette malédiction, essayer de comprendre, et puis il va rencontrer une autre jeune fille qui est la sœur d'une autre jeune femme maudite, et ils vont essayer de se relier ensemble pour pouvoir arriver à essayer de lever cette malédiction, de retourner aux origines de cette malédiction. Alors graphiquement, c'est assez sympa, puisqu'on va retrouver des personnages qui vont nous faire penser c'est pas le voyage de Chihiro, vieille dame, une grande vieille dame. Tu vas voir, tu parcours un petit peu le tome au tout début, grand chapeau. Mais il y a plein d'astuces graphiques, le fait que toutes les personnes, une personne va pouvoir maudire d'autres personnes, et toutes les personnes qu'elle a maudites sont reliées à elle par des fils de destin.
D'accord, oui.
Et si la personne qui a maudit meurt, bah toutes les autres meurent.
Oh.
Donc il y a plein de petites choses qui font que ça devient un peu complexe, mais que ça fonctionne carrément bien. Et c'est beaucoup plus riche que ce que je peux arriver à vous en dire. Après, je ne veux pas vous spoiler non plus l'histoire, puisqu'il y a pas mal de rebondissements. Notamment comment Rino et puis donc le jeune garçon et puis la sœur de Xenthal, je ne sais plus comment elle s'appelle, Xenthal étant une espèce d'idole pop ultra célèbre dans Crépankin, qui va se retrouver malheureusement maudite, et qui par sa popularité, on va dire, va être capable de maudire beaucoup de personnes.
Et d'un coup, oui, forcément, plus t'as de visibilité.
C'est ça.
Et des gens qui t'écoutent. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Maintenant que j'ai la fameuse sorcière sous les yeux, bien qu'elle ait franchement une dégaine très étrange, elle me rappelle en fait la sorcière des Landes dans Le Château Ambulant.
C'est ça que je cherchais.
Sauf que là, son bourrelet de cou serait remplacé par un foulard outrageusement touffu. Mais du coup, c'est vachement intéressant. Au niveau des dessins, je les trouve vachement organiques en fait. J'ai presque l'impression de les voir bouger sous mes yeux. Ce serait adapté d'un dessin animé, que ça ne me choquerait pas du tout.
Mais c'est un petit peu l'impression qu'on a à chaque fois chez Spaceman Project. C'est que, alors je ne veux pas prendre l'intention, hein, mais c'est qu'on a des storyboards de dessins animés qui sont adaptés en BD et réélaborés. Ce qui fait qu'il y a une fluidité de lecture qu'on retrouve aussi ici, hein, qu'on avait chez Nothing Personal, dont on a parlé, qu'on avait chez Koroke, qui font que ce sont des albums qui se lisent malheureusement assez vite. Donc il faut y retourner pour pouvoir retrouver d'autres, redécouvrir le dessin, redécouvrir, approfondir un petit peu l'histoire, même si ça reste quand même assez dense. Alors celui-ci, peut-être un peu plus que Koroke et puis Notion Personnelle, on a une mythologie beaucoup plus importante, on a un développement beaucoup plus travaillé, et puis bah, là, c'est les pages sur lesquelles tu es en train d'arriver. À la fin, on a une espèce de petit carnet d'études où un personnage en fait, a recensé, je vous dis pas qui, les différentes personnes qui sont maudites et les particularités de leur malédiction. Puisque quand je disais que ça faisait une baguette magique à la place du doigt, c'est pas une baguette magique à la Harry Potter, hein, c'est plus.
On dirait une plante dans la plupart du temps. Des plantes, là je vois des trucs qui ressemblent à des coraux, à des plantes incrustées de pierres, d'autres. Il y a plein de choses en fait.
C'est ça. En fait,
c'est dessiné à l'aquarelle, c'est très beau.
Là je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est pas seulement en fait des coraux ou des choses comme ça. C'est un champignon en fait. Cette malédiction est une sorte de champignon qui se nourrit en fait de l'essence vitale des gens à chaque fois qu'ils vont se servir de la magie. Mais d'accord. Du coup, ça donne un truc assez intéressant avec des retournements de situation qui sont franchement pas mal. Et ça me fait un bel objet vers lequel j'aurais pas forcément été de moi-même, un petit peu comme les deux autres au départ en fait. Donc si vous voyez des bouquins estampillés Spaceman Project, allez-y parce que vous aurez forcément une belle surprise. Ou alors c'est que vous aviez déjà une appétence pour ces couvertures et que vous avez fait le bon choix.
En tout cas, déjà, ça m'intéresse parce que tu as commencé en disant déjà que c'était le tome 1 sur 2. Donc,
série courte.
Voilà, c'est ça, série courte. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de ne pas m'investir sur des années et des années. Et puis, c'est quand même une grosse BD, hein, 134 pages si on ne compte pas le bon gros appendice à la fin. La couverture, elle est super belle. Et encore une fois, au niveau des dessins. Et du style de certaines représentations, notamment des fils de destin dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un petit peu de l'imagerie japonaise, d'animation japonaise, je trouve. Enfin, en tout cas, j'y retrouve un petit peu de la magie avec laquelle j'ai grandi en regardant les Ghibli et autres. Et c'est vachement plaisant, en fait, si c'était l'intention et l'idée de base, c'est toujours beau de voir un petit peu comment les cultures s'entremêlent et donnent des choses encore plus jolies. Quoi.
Et bien, il y a pas mal d'astuces graphiques, que ce soit les fils entremêlés, que ce soit... faut le lire. On a un traitement de couleurs qui est assez flashy, assez pop, surtout renforcé sur les pages comme celles que tu as là où les fonds sont noirs. Donc on a vraiment des couleurs qui vont ressortir avec un contraste assez élevé. Ce qui fait que ça rend vachement bien.
Et puis le dessinateur, il s'est permis quelques trucs pas communs qu'on peut voir dans la BD. C'est-à-dire, là, je suis sur une page, par exemple, où il casse un petit peu les traditionnelles cases, mm-hmm. bien anguleuses, en représentant en fait, différentes cases dans les pétales d'une fleur. Et sur fond noir, comme tu disais, donc avec vraiment une explosion de couleurs, mais ça retire en rien en fait le sérieux que peut avoir l'histoire. Quoi. Ça rend pas tout cucu en fait. Ça rend juste ça beau et chatoyant pour ceux qui aiment ça.
C'est classe, effectivement. Du coup, vu que c'est toi qui as l'album, je te laisse redonner les différentes informations nécessaires à nos auditeurs pour pouvoir se procurer l'album.
Mais bien sûr, cher ami.
Oh.
Il s'agit de Crépankine, volume 1 sur 2, marqué par les dieux de Karowaro. Varro, t'as dit tout à l'heure ?
Moi, j'ai dit Varro.
Oui. Garbunka, et c'est chez Spaceman Project. Allez-y,
c'est plutôt pas mal. À ton tour ?
Oui, à mon tour.
Ouais, à ton tour, et puis après, on fait une pause musicale maintenant, tiens.
Allez, d'accord.
Bon. La petite pause musicale
on
des familles.
Tout à l'heure.
Et on se retrouve avec un petit morceau que c'est toi qui as demandé. Une petite dame qui a chanté d'autres trucs. Puis on l'entend assez peu en ce moment, plus à la radio. Allez, on se retrouve après Lady Gaga, Perfect Illusion.
To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least Radio G.
What the...
101.5 FM.
Vous êtes toujours sur la case de Seb, c'est toujours Radio G, 101.5, hein. Vous l'avez entendu, on est toujours en train de parler de bande dessinée, manga et comics. Et puis, je voulais vous parler d'une BD que ma fille va pouvoir me rendre, si elle veut bien, ou si elle veut bien, elle, parler dans le micro et nous dire de quoi on va parler. Allez, ma chérie, de quoi on parle ?
On va parler de bonbons, super. C'est un livre qui est super bien, qui parle de trois boules qui obtiennent trois filles de trois couleurs, jaune, rose et vert. Qui, elles ne savent pas qu'elles ont des pouvoirs.
Alors en fait, si ma chérie, elles savent qu'elles ont des pouvoirs parce que ce sont des super-héroïnes. Ce sont les fameux bonbons super. La rose, elle s'appelle praline, la jaune s'appelle amande et la verte s'appelle pistache. Alors qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre ?
Beaucoup le début quand on découvre qu'avant c'était des boules et qu'elles venaient de l'espace. C'était super au début.
Donc ce sont des bonbons qui sont tombés sur cette île qui est l'île Coco. Et ces bonbons en fait sont des super-héroïnes qui ont été envoyées sur cette planète pour résoudre un problème. Là le problème c'est que qui s'appelle Stan vole le cœur des gens. C'est le vampire de l'amour. Tu vois lequel c'est Stan ? C'est celui qui a plein de bras. Et du coup, en fait, on a deux des bonbons qui atterrissent chez une espèce de grand chien. Alors, il te faisait penser, Anthony, à...
Kumatetsu dans le garçon et la bête. Hein.
Il y a cette espèce de côté un peu... encore une fois, un côté très dessin animé sur ce bouquin. Alors, ma chérie, est-ce que tu peux juste donner à Anthony qu'il nous lise les mentions qui sont sur la couverture ? Donc, ça s'appelle Bonbon Super. C'est Saïd Sassine de mémoire.
Alors, Bonbon Super, oui. Donc, le tome 1 qui s'appelle 1, 2, 3 pistaches de Saïd Sassine. Et c'est chez Glénat.
Et c'est un truc qui est... Alors, si vous avez l'habitude de voir des trucs colorés, eh ben vous étiez pas prêt du tout, parce que c'est encore plus coloré que coloré. J'avoue que je n'imaginais pas un truc aussi flashy que ça. Je savais pas que sur la palette graphique, on pouvait taper dans saturation max, couleur max, et que ça marche en fait. Et il y a un côté très...
acidulé, bonbon.
Acidulé, bonbon, hein.
Ouais.
Et du coup, c'est ces trois petits bonbons en fait qui vont essayer de calmer Stan en fait, qui est le fils en fait de Satan. J'ai trouvé ça super rigolo le côté Stan, c'est Satan sans le A, et ça passe très très bien. C'est un univers. Alors encore une fois, un petit peu comme sur Crépankin tout à l'heure, on a l'impression en le lisant qu'on débarque dans un truc in medias res et que de toute façon t'auras pas toutes les infos. Il y a des trucs tu sais pas qui c'est Stan, tu sais pas qui c'est les bonbons super, alors que tout le monde a l'air de considérer que c'est des super héroïnes. Toi tu débarques, tu sais pas qui c'est, t'apprends au fur et à mesure. Et puis il y a plein de choses, c'est un monde qui est très très pop, il y a une espèce de montagne en fait, un volcan pour être exact, qui bloque l'entrée en fait à l'enfer, donc tu peux pas accéder à Stan comme ça, et cette montagne elle est un peu déprimée, elle menace de pleurer tout le temps.
Oh.
Et c'est bourré de petites blagues, il y a un démon à un moment qui veut rentrer, et puis la montagne il fait « tu as oublié le mot magique ». S'il te plaît. Et là, la montagne, elle ouvre, puis le truc, il peut rentrer en enfer. Mais c'est hyper kawaii, c'est hyper mignon, ça passe super bien. Je sais pas comment résumer, en fait. On a vraiment l'impression de qu'on va rien comprendre, qu'on nous cache certains trucs. Et en fait, on a des explications. Qu'elles nous conviennent ou pas, on les a, les explications. Les bonbons super, c'est des héroïnes.
Oui, c'est l'apanage de beaucoup d'univers absurdes finalement. C'est donner l'impression d'un gros bordel ambiant, mais un bordel logique et qui a quand même son ordre. Et puis bah finalement il y a des codes assez typiques du Magical Girl en fait.
Ouais, mais c'est
des
c'est
petites filles
ça.
qui quand ils se transforment, le fond devient de leur couleur. Il y a des petits cœurs et des étoiles. Elles changent de tenue, etc. Et franchement. D'un point de vue, que ce soit adulte ou enfant, en fait, je trouve que ça colle. Et les dessins que j'ai sous les yeux, là, grâce à Garance, ils sont vraiment très jolis. Enfin, ça me donne trop envie de le lire, en tout cas. Acidulé comme ça peut que être choupi à souhait.
Mais il y a un côté qui puis ça marche très très bien. C'est mignon. Les histoires d'amour, c'est parce que ce vampire de l'amour, en fait, il se nourrit de différents types d'amour. Et c'est un petit peu ça qui va devenir son piège, en fait. Et bah voilà, je vous laisserai découvrir, mais c'est bien foutu. Ça va peut-être un peu vite, en fait, sur certains moments, puisque le fait d'être propulsé directement dedans et puis de considérer que le lecteur a déjà acquis tous les codes de cet univers-là, bah, ça fait que bah, des fois, on a un petit peu du mal. Mais du coup, c'est assez particulier. Et puis, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Garance ? Alors, tu ne dis pas la fin. Hein. Tu ne dis pas. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé ?
C'était trop bien.
C'était trop bien. Et pourquoi c'était trop bien? Parce que c'était joli, coloré.
On voit surtout les trois couleurs.
Eh ben écoute, c'est super.
C'est vrai que le...
Mais ça fait peur?
Non.
C'est pas bête du tout ce que tu dis, Garance, parce que en effet au fur et à mesure des pages, en fait il y a c'est très coloré, acidulé comme on le disait, mais il y a quand même un certain code couleur qui revient, je trouve, et je pense que ça peut, j'ai pas encore lu la BD, mais peut-être que ça sert la narration. En tout cas, c'est moi je suis très friand, je pense que je vais être amené à découvrir.
Tu verras si tu as l'occasion de le lire. C'est qu'en fait, chaque bonbon super a effectivement sa couleur et un environnement émotionnel qui lui va. Et ce qui fait qu'à chaque fois que l'environnement émotionnel se met en place, il y a une variation de couleur un petit peu sur le fond qui fait que on identifie bien quel bonbon super est à l'œuvre.
C'est marrant ce que tu dis, parce que ça rappelle vachement en fait d'autres univers que j'ai pu voir. Enfin, peut-être, je sais pas si on est face à un phénomène de mode ou à un style de narration qui parle, mais entre Bonbon Super et Steven Universe ou L'ère des cristaux, je retrouve peut-être un truc assez commun comme ça, le fait d'associer vraiment des couleurs à des émotions ou à des caractères. Je trouve ça vachement intéressant.
Bah écoute, pourquoi pas. Je te laisse redire les références.
Oui, donc c'est Bonbon Super, 1, 2, 3 pistaches pour le tome 1. C'est aux éditions Glénat et c'est de Saïd Sassin.
Eh bien écoute, merci Anthony.
Allez, oui.
Je te laisse parler un peu.
Oui, très bien. Moi, merci. Je vais commencer en vous disant que j'ai été vilain.
T'as été vilain?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai jugé un livre à sa couverture.
Oh, mais ça, on le fait tous.
Ouais, mais à coup le pas, je crois que je le fais beaucoup. Mais dans ce cas-là, ça s'est avéré payant. C'est-à-dire que j'étais face à un manga avec une très jolie couverture qui indiquait déjà pas mal l'ambiance, à savoir de l'heroic fantasy.
Wouhou.
Ouais. Donc ça s'appelle Mythical Beast Investigator. C'est de... Alors, c'est une collaboration de trois artistes, de Koichiro Oshino, de l'écrivain Keishi Ayasato, et le chara-design revient à Lac. Et c'est aux éditions Ototo.
Encore une fois, Ototo.
Oui.
Mais tu es abonné à Ototo, mon ami.
Oui. Et oui, encore une fois, Ototo nous régale d'une nouvelle trouvaille vachement intéressante. Donc, pour résumer... il y a dans ce monde des bêtes mythiques qui vivent parmi les humains comme si c'était des animaux du bestiaire de tous les jours. Donc des vouivres, des dragons et autres bestioles. Mais lorsque forcément le lien avec les humains est trop proche, et ben ça crée des frictions, ça crée des problèmes.
Mmh.
Et dans ces moments-là, on appelle en fait les investigateurs des bêtes mythiques. Ces investigateurs sont chargés de s'occuper en fait de ces bêtes mythiques errantes et soit de les détruire lorsque le besoin s'en fait sentir, soit de les capturer, de les ramener. Mais ici, on va suivre en fait une petite fille qui est un peu plus spéciale. Déjà, elle est spéciale en deux points. La première, c'est qu'elle n'accepte pas de simplement détruire en fait les bêtes. tout comme les villageois lui en feraient la demande, parce que bien sûr, ces investigateurs sont payés pour agir. Elle décide plutôt en fait d'apprendre à comprendre les bêtes, comme s'ils avaient des sentiments comme nous. Donc il y a un petit côté défense des animaux que je trouve pas déconnant. Donc voilà, elle va chercher à connaître, à comprendre. Elle sort très régulièrement un gros grimoire dans lequel elle a pris énormément de notes sur diverses bêtes mythiques. Et en fait, elle va chercher à comprendre pourquoi ces bêtes, à un moment donné, posent problème. Plutôt que de simplement s'en débarrasser. Et à régler, si possible, ce problème, tout simplement par de la compréhension et en arrangeant le problème sans avoir à tuer les bestioles. Et donc ça. Et la deuxième chose qui rend cette petite fille spéciale, c'est son compagnon de voyage, qui ressemble, ma foi, à un grand lapin, tout noir, vêtu d'un chapeau haute forme et d'une redingote. Celui-ci semble est très mystérieux. On n'apprend que très très peu de choses sur lui dans ce premier tome, à part son prénom et un petit peu de ses capacités. Il est capable de se réfugier dans l'ombre de la petite fille et semble être une espèce de roi, ou du moins de grand seigneur démon, avec lequel la petite fille aurait fait un pacte. Mais comme ce pacte a l'air d'être secret ou caché, puisqu'il se cache à chaque fois aux yeux des humains, peut-être qu'on est face à un petit tabou. En tout cas, ces deux compagnons en fait vont interagir. Il y a aussi un troisième petit compagnon d'ailleurs que j'ai oublié, mais comme beaucoup de bons mangas, il y a aussi petites mascottes.
Ah.
Et là, il s'agit d'une petite chauve-souris qui prend souvent la défense de la petite fille et notamment cherche à avoir plus son attention que le lapin.
Alors c'est rigolo parce qu'on va avoir les deux. Enfin, la couverture, elle dénote énormément. La petite fille est très lumineuse, le lapin, il est très dark. On a vraiment l'impression d'avoir les deux opposés qui pourtant font une seule. C'est les deux faces d'une même pièce.
C'est ça. Et puis on va avoir le lapin qui va être désinvolte, qui va être sûr de lui, etc. Et à côté de ça, cette petite fille, elle a beau être très, très jeune, elle reste quand même aussi tout le temps très sérieuse en fait, comme si elle avait grandi trop vite, comme si elle avait vu des choses qu'une enfant de son âge ne devait pas voir. Bref, ce premier tome en fait place vraiment un petit peu pas mal de codes pour cette série et en fait il va surtout s'agir de comprendre le monde dans lequel on est, un petit peu découvrir les personnages qu'on va suivre, notre petit trio, pour découvrir enfin des choses plus avancées après.
D'accord, là c'est un tome d'introduction, mais on a déjà les prémices de la trame générale sur la plus grande durée.
C'est ça, et on va bien voir que les soucis vont se poser autour du lien entre la petite fille et le démon, et de la raison pour laquelle cette petite fille est différente des autres investigateurs, et qu'elle est moins violente et cherche plutôt la compréhension des bêtes.
Okay.
En tout cas, après recherche, j'ai pu voir que normalement la série est en deux ou trois tomes, si je ne me trompe. Donc encore une fois, c'est pas un gros investissement pour un manga qui est à 7€ le tome, il me semble. Donc ça peut vous permettre peut-être de vous faire une bonne série avec, ma foi, aussi des dessins qui sont très jolis.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Graphiquement, c'est bien propre. En plus, les personnages, enfin, au niveau du chara-design, ils sont bien développés.
Oui.
Donc c'est l'intérêt aussi de mentionner qu'il y avait un chara-designer dessus.
C'est
et
ça.
Le lapin est hyper stylé. Hein.
Ah, il est hyper stylé. Il est forcément très ancré puisqu'il est vraiment tout noir. Ses capacités hors du commun en fait sont vraiment bien mises en avant dans le manga en fait, avec des scènes d'action qui sont assez folles, je dois dire. J'ai repassé plusieurs fois à certains moments les pages pour comprendre un petit peu le mouvement en l'air qu'il faisait. Et c'est assez joli. Avoir un chara-designer à la place entière dans ce manga, c'est vraiment important. Enfin, même les autres bêtes mythiques, etc. Tout le manga ne respire pas la feignantise. Voilà. Ça donne envie de lire, de regarder les pages et de très vite connaître la suite.
Eh ben, écoute, en tout cas, tu l'as bien vendu.
Oui.
Tu redonnes les références ?
Oui, donc c'est Mythical Beast Investigator de Koichiro Oshino, Keisha Ayasato et Lac aux éditions Ototo.
Eh ben c'est parfait. Merci Anthony.
Madaria.
Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, on va refaire un petit.
Un petit, allez.
Bon, j'imagine que vous êtes tous en train de manger. Alors si on vous parlait du banquet ?
Bah, tant qu'à faire. Manger.
Manger, bah, peut-être pas là, c'est plus particulier. Le banquier, c'est un des bouquins que vous avez forcément entendu parler si vous avez traîné un petit peu vos guêtres dans une salle où il y avait des cours de philosophie. Vous avez peut-être parlé, tué des petits bouts de texte pendant que vous passiez votre bac. Mais est-ce que vous aviez vraiment compris de quoi ça parle? Est-ce que toi, tu sais de quoi ça parle, le banquet?
Pas vraiment.
Eh bien, c'est l'occasion avec le banquet, dessiné par Coco et scénarisé ou redirigé par Raphaël Enthoven, le philosophe et professeur de philosophie. Donc, le banquet, d'après l'œuvre de Platon, aux éditions Les Échappées. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on parle des éditions Les Échappées.
Ah oui, ça se peut. En tout cas, j'ai pas l'habitude de l'entendre.
Alors, si on devait résumer en fait le banquet, je vais reprendre le petit tableau, parce que si je vous le dis de la façon dont c'est dit au départ, il y a peu de chances que vous compreniez de quoi ça parle. Puisque le banquet, c'est Apollodore qui expose à son interlocuteur, Glaucon, le resti qu'Aristodème lui a fait du fameux banquet où, le vin venu, Socrate apporta aux convives le récit de Diotime, prêtresse de matinée, lui avait elle-même fait la naissance d'Eros.
C'est le bordel.
Voilà. Donc en fait, c'est Platon raconte ce que A raconte à B qu'il a entendu de C, qui lui était au banquet.
Donc en fait, c'était une BD sur les ragots.
C'est ça, c'est mon pote a entendu son cousin qui était au repas de machin. Mais c'est, enfin, c'est l'occasion en fait pour Platon de parler de Socrate qui raconte ce qu'est l'amour. Donc c'est assez incongru, c'est assez intéressant de redécouvrir en fait ce texte sacré, on va dire, de la philosophie sous un jour un peu plus lâché, avec des axes de compréhension, puisque Raphaël Enthoven va faire des introductions directement dans le texte présenté pour pouvoir nous faire découvrir certains points, certains aspects du texte qui pourraient nous échapper. Ainsi, à un moment, il y a un personnage qui a le hoquet. Et là, hop, Raphaël Enthoven, il intervient, il dit, si ce personnage-là, il a le hoquet, c'est parce que c'était un type que Platon ne pouvait pas supporter. Donc, en lui faisant avoir le hoquet, hop, il lui coupe la chic. Et il l'empêche de parler. Et ça, pratique. C'est dit dans un autre bouquin. Sauf que si tu ne l'as pas lu, ce qui doit s'appeler Les Nuées, si tu n'as pas lu Les Nuées, tu ne sais pas pourquoi ce personnage-là, il est le hoquet. Et du coup, c'est une explication de texte de manière didactique et dessinée. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est tout en noir et blanc avec des incursions colorées. C'est dessiné par Coco, que vous pouvez connaître, il me semble qu'il collabore avec Charlie Hebdo. Et du coup, c'est... c'est un moyen de découvrir la philosophie, de comprendre un petit peu, et parce que comprendre vraiment la philosophie, je pense que ce ne sera pas suffisant en fait, de lire juste la BD.
Mais ça a l'air d'être déjà une BD assez pesante quand même, parce que c'est pas une BD de 50 pages. Hein.
Non.
Mais en fait, je trouve la démarche vraiment géniale, parce qu'on entre dans le côté un peu vulgarisation, et moi qui n'ai pas fait de cours de philosophie au lycée, je me suis toujours dit que j'aurais beaucoup aimé le faire, parce que le faire tout seul dans son coin, en autodidacte, c'est assez difficile, parce qu'il y a parfois des textes et des proses qui sont trop complexes, trop compliquées, et même quand des fois elles sont assez simples d'accès, il y a des choses qu'on loupe, et à moins de se taper des lectures ou vraiment de vrais cours de philosophie, c'est toujours très complexe. Là, tu me dis que Enthoven va nous expliquer des choses, nous faire un peu des notes de bas de page.
De la vulgarisation.
Nous montrer en plus par l'image. Franchement, si en plus de passer un bon moment, de lire, et en plus de ça, en sortir plus cultivé et avec de la réflexion, des choses comme ça, franchement, je trouve ça juste génial. Il faudra qu'il y en ait plus.
Il faut. Alors, faut savoir que c'est la toute première BD du coup de Raphaël Enthoven, parce que le monsieur s'essaye à peu près à tous les supports qu'on veut bien lui donner, et du coup, c'est pour la première fois qu'il fait une BD. Et je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est plutôt réussi, et que si on pouvait avoir des variations sur d'autres textes de philosophie, il y a peut-être plus de personnes qui se pencheraient vers la philosophie, parce que ça vaut vraiment le coup.
Et puis ça va peut-être rendre le milieu un peu moins hermétique aussi. Si du coup ça peut permettre aux profanes comme moi d'aborder ces sujets-là sans trop prise de tête, sans fumer du ciboulot après.
Ah ça reste quand même assez exigeant. Je veux pas te gâcher un petit peu. c'est de la vulgarisation, mais je pense que, alors, et c'est peut-être le petit défaut que je trouverais au livre, c'est que Raphaël Enthoven connaît bien le texte et parfois, parce que le bouquin fait bien son boulot, je pense qu'il oublie que le lecteur ne le connaît pas aussi bien que lui.
Ouais.
Et c'est ces petits moments-là où on fait ah, attends, il m'a dit que c'était super clair là, par contre, j'ai pas compris moi. Donc déjà, il faut retenir le nom des personnages, il faut retenir les situations, et puis effectivement, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus lancées et qui font que on se perd un petit peu en cours de route. Mais ça reste un bon bouquin de vulgarisation.
Et puis ça reste le premier.
Ça reste le premier. C'est un on s'affine avec l'âge. Peut-être que quand il en aura fait 10, on aura un truc qui sera parfait, nickel.
Puis on dit souvent que c'est lorsque l'élève est prêt que le maître se montre. Donc peut-être que cette BD arrivera dans les mains de ceux qui sont déjà un minimum préparés.
Bah oui, et puis la prochaine fois que vous aurez un cours de philo où on vous parlera du banquet, si vous l'avez lu, vous saurez de quoi ça parle. C'est plutôt génial. Enfin voilà, un bon bouquin à lire, Le Banquet, de Coco, dessiné par Coco et scénarisé, je sais pas si on peut dire vraiment scénarisé, si scénarisé, par Raphaël Enthoven, d'après l'œuvre de Platon, c'est aux éditions Les Échappées.
Génial, en plus parler de petits éditeurs qu'on connaît pas toujours, c'est intéressant parce que peut-être que des personnes qui visiteront le site internet de cette maison d'édition trouvera d'autres choses qui les intéressent.
Très clairement. Allez, on se refait une petite pause musicale.
Oui.
Oui, tu es en train de te demander ce que je vais bien pouvoir te mettre.
Oui, ce que tu m'as demandé. Non.
Non. Mais non. Non, mais oh là 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 là.
Mais Tony n'est pas là.
J'en suis vraiment désolé, chers auditeurs. Je suis navré. Allez, on va lui laisser le temps de s'en remettre avec une petite pause musicale. C'est The Killers, Somebody Told Me.
Tracks and I've had it with this game. Radio G 101.5 FM.
Toujours sur le 101.5 FM de Radio G. Il est 19h41, où c'est toujours la case de Seb. Ah, vous êtes toujours avec nous.
Toujours.
Toujours pour parler du meilleur. De la... Non mais j'attendais que tu rebondisses justement.
Ah ben je peux rebondir autant que tu veux, il suffit de me jeter contre le sol et c'est parti.
Il est intenable. Allez, je vais vous parler maintenant de un bouquin qui est super joli, que j'attendais un petit peu, qui fait partie d'une série de romans. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul, je dis une série, mais une série de romans. C'est un spin-off d'un roman que je découvre et qui, franchement, et plutôt classe. Il s'agit de Daryl Ouvremonde, tome 1 aux éditions Glénat. C'est signé Rémi Guérin au scénario et Christelle au dessin. Et c'est franchement super beau. Donc là, on a une couve qui est dorée avec un lettrage super propre. On a un côté
steampunk, je dirais presque.
Ouais, un petit goût steampunk avec deux personnages en bas, un personnage au centre et puis une machine à écrire en haut. Donc ça fonctionne bien. Alors n'ayant pas lu le roman, je me suis dit mince, ça, cette BD me faisait beaucoup envie, mais vais-je pouvoir la lire? Vais-je pouvoir la comprendre? Eh bien oui. Vraiment oui,
tant mieux.
Parce qu'il y a une espèce de petite double page où on a un personnage qui explique à une éditrice de quoi parle le roman et quels sont les personnages, quels sont leurs buts, et ça marche tout seul. Alors je ne vais pas m'embêter à vous faire des résumés, je vais vous dire quels sont les personnages. Eh bien il faut savoir qu'il y a Daryl. Daryl c'est un ado de notre monde, mais qui a un pouvoir, celui d'ouvrir les glyphes serrures qui mènent dans un autre univers, l'ouvre-monde. Il faut savoir que dans l'ouvre-monde, il y a des journalistes. Les journalistes sont les personnages les plus importants. Savoir qu'il n'y a pas un jour qui se lève sans que les journalistes aient publié le journal avec tout un tas de news. Il faut savoir que Daryl, en allant dans l'ouvre-monde, il va décider de devenir...
un dieu !
Journaliste ! Oh ! Tu suis pas, toi. Et puis, il y a d'autres personnages. Il y a Juliane, une jeune femme de notre monde, qui a une capacité assez particulière. Elle est celle de voir les fantômes. Ah, donc, tout le monde se dit « Ah ouais, mais il y a des fantômes dans l'ouvre-monde !» Non, sauf que Juliane, elle va pas du tout y aller dans l'ouvre-monde. Elle voit les fantômes de notre monde à nous. Et un certain Dean, un jeune homme qui est décédé il y a de ça de nombreuses années. Et puis, une espèce de coup de foudre qui se crée entre Juliane et ce fantôme. Oh. Un amour impossible. Tu vois, le truc qui marche.
Un truc que Jennifer Love Hewitt a sûrement aidé à s'épanouir, quoi.
Eh oui. C'est... Ouais. Il faut savoir que cette BD, en fait, se déroule 10 ans après les romans.
Ah oui.
Ah oui. Donc on a un Daryl, le fameux Daryl du titre, qui est devenu un des journalistes les plus prolifiques, qui a un impact, en fait, sur les ventes de journal. Alors, il paraît que l'édition du journal n'est pas limitée, mais que le tirage n'est jamais suffisant quand Daryl a écrit quelque chose dedans, tellement ses aventures sont passionnantes. Faut savoir que si Daryl s'écrit D-A-2-R-Y-L, le journaliste s'écrit à la place, avec un Y à la place du I. Et il y a plein de petites astuces comme ça. Alors, je ne vais pas vous donner un article, c'est un article avec un Y au lieu d'un I. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, puisque effectivement, ce serait vous gâcher, puis vous laisser, je voudrais vous laisser découvrir comme moi je l'ai découvert, en fait, ce tome. Mais c'est, pour vous donner envie, c'est le trait assez magnifique de Christelle qui, je sais pas, il y a une espèce de rondeur, il y a une espèce de... elle aime bien jouer sur des espèces de petits reflets, en fait. Les gens vont pas avoir un nez, par exemple, qui va être tout propre, tout clean. Il va y avoir toujours une espèce de petit reflet, une lumière. Elle a une gestion de la lumière qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, Christelle a sorti quelques albums avant. J'ai perdu tous les noms. Je perds mes moyens quand je parle de Christelle, tu vois. Mais ces couleurs en fait fétiches qui sont des espèces de bleu d'ombre, une espèce de bleu gris. Je sais pas si tu vois ce genre de bleu gris en fait.
Je vois ça donne l'impression de voir un écran. Ouais.
C'est ça et ça se marie hyper bien avec cet univers qui est Ouais, ça pourrait être proche d'un Harry Potter, en fait, journalistique.
Ouais.
Mais c'est vraiment super, super. Je veux pas, vraiment pas vous parler d'histoire parce que je vais vous gâcher, en fait. Je veux que vous puissiez le découvrir sans avoir lu le roman, en fait.
Bah, en tout cas, si ça se passe 10 ans après le roman, je pense que ça peut être assez intéressant dans le sens où ceux qui connaissent le roman vont pouvoir y retrouver des choses qu'ils ont aimées, et ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas lu, pareil, ils ne seront pas forcément dépaysés. Il y aura peut-être pas mal de, peut-être des clins d'œil, et comme il s'est passé beaucoup de temps, ça a peut-être laissé aussi une certaine liberté au niveau du scénario pour pouvoir faire pas mal de choses. Il y a moyen que ce soit très intéressant. Et tu vois, sur la couverture, le visage des personnages me rappelle un petit peu ce qu'on peut voir chez Atlus, en fait, dans les personnages de, ouais. Bah, de Persona, de Shin Megami Tensei en général, quoi.
Bah, y a ce côté un petit peu posé. Après, on est très loin, en fait, des séries Atlus. Hein. C'est pas... faut savoir que Rémi Guérin, c'est lui qui avait scénarisé City Hall. Donc, c'est un manga basé encore sur la littérature où c'est des écrivains qui ont la capacité, en fait, en écrivant sur du papier, de donner vie à des monstres
mortels.
Et ça fonctionne super bien. C'est une série qui est assez courte. Si vous ne l'avez pas lu, chers amis, n'hésitez pas. Je trouve que Rémi Guérin a une façon de créer, en fait, des univers qui gardent une certaine cohérence et qui sont sur des postulats de base assez simples. Des écrivains comme Poe, Lovecraft, tu leur enlèves leur papier, on n'a plus d'univers. Et City Hall, c'est ça. C'est des écrivains qui sont dans un univers où le papier est une denrée rare, où le fait de pouvoir écrire est quelque chose de contrôlé.
Contrôlé est peut-être très luxueux, donc pas forcément facile d'accès, quoi.
C'est ça. Et du coup, Daryl, on a un peu c'est un peu l'opposé, en fait. Là où les écrits. Parce que le journal, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement répandu, et bien ces journaux-là, ils ont une importance primordiale dans l'univers. Et du coup, ça fonctionne très très bien.
D'accord. Ouais, on pourrait parler peut-être du Chrony à ce moment-là. Lorsque du coup... Non.
Non, c'est vraiment un univers parallèle, si tu veux, mais pas une Uchronie. On peut pas parler d'une Uchronie là-dessus. Et du coup, ça marche très très bien. J'avoue que j'attendais cet homme-là depuis un petit moment, connaissant l'univers. Alors, malheureusement, mon manque de temps fait que je n'ai pas eu le temps de lire le roman d'Harry Louvremonde. Je pense que je vais rattraper mon retard parce que ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Et puis, le travail de Rémi Guérin et de Christelle sont deux univers que j'aimais déjà beaucoup. Et je me suis dit, les deux ensemble, ça ne peut que marcher. Et c'est effectivement le cas, ça fonctionne bien. Juste un tout petit point de détail, si effectivement je devais trouver un petit reproche, c'est que parfois les dialogues sont un peu figés, mais je pense que c'est le passage du roman à la BD qui fait que ça bloque un petit peu.
Il reste des carcans de ce qui s'est fait avant, quoi.
Ouais. Mais du coup, ça marche quand même très bien. Donc allez-y, Daryl Ouvremonde de Rémi Guérin et Christelle, c'est aux éditions Glénat. Il y a un roman qui ne doit pas être illustré par Christelle, mais qui est au moins écrit par Rémi Guérin, ça c'est sûr. Donc allez-y, ça fonctionne bien et c'est plutôt cool.
Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si on peut parler de transmédia, vu que ce n'est pas tout à fait le même support, mais souvent, les adaptations manga, les adaptations séries, films, etc., elles servent surtout un point pour moi, je trouve, qui est essentiel, finalement, c'est de faire connaître des œuvres. Si des personnes sont plus attirées dans un premier temps par des choses visuelles, etc., donc par une BD, si ça peut leur donner envie après de lire les romans, tant mieux, banco, allez-y. Et puis... Enfin, je veux dire, c'est qu'une BD, quoi. C'est pas...
C'est clair. C'est, ça va pas vous pourrir la vie, ni nous vous ruiner le portefeuille.
Tout à fait. Et au pire, ça fait un magnifique cadeau d'occasion à faire à des amis.
Allez, et puis je vais finir avec un album qui va être d'actualité à quelques semaines, quelques jours, je dirais même, de l'ouverture du Festival d'Angoulême. Il s'agit de un auteur de BD en trop, de Daniel Blancou aux éditions Sarbacane. Alors déjà, on est sur un bouquin qui est assez stylé, puisqu'on est sur un dos toilé. On a une couverture, en fait, où tu vois là une espèce de trame pointillée qui a été dressée, et puis on est sur des couleurs un peu à l'ancienne. Et ça nous présente un petit peu ce que pourrait être le Festival d'Angoulême pour un auteur sans succès, c'est-à-dire un type tout seul avec sa page blanche, juste à côté d'un gars où il a une file indienne et puis un amoncellement de personnes Eh bien oui, puisqu'il faut savoir que Daniel va s'auto-portraitiser dans ce bouquin. Daniel a une particularité, il aime faire des BD qui sont assez spécifiques. Par exemple, la BD qu'il présente là au Festival Angoulême, c'est sur les difficultés du commerce des chenilles alimentaires en Centrafrique. C'est pas forcément la BD la plus glamour du monde, quoi.
Non, c'est clair.
Il faut savoir que
c'est
même...
un parti pris, ouais.
Même dans son atelier, en fait, on se moque un petit peu de lui, puisque son prochain documentaire en BD, c'est sur les ravages de la peste en Auvergne. Non, pardon, sur les conséquences de la grippe aviaire dans les Bouches-du-Rhône.
Ah ouais.
Eh ben ouais. Et du coup, ce monsieur qui aime bien faire des documentaires reportages va un jour, un concours de circonstances, se retrouver avec des planches de BD en main. Et pour lui, c'est le futur de la BD. C'est vraiment des planches qui sont assez magnifiques, transcendantes, intelligentes. Tu mets tous les superlatifs que tu veux, c'est les meilleures planches de BD du monde. Et là, il se retrouve face à un dilemme. Est-ce qu'il va plagier ces planches-là et gagner le succès pour lui-même? Ou au contraire, ne rien en faire et le regretter toute sa vie? Sachant que si ce plagiat... se fait connaître, c'est fini de sa carrière.
Hein. Ouais. Bon, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, non?
Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon. Il faut savoir que c'est une BD qui, sous un trait qui peut paraître un petit peu naïf, un trait qui est forcément à volonté humoristique, puisque la BD est elle-même à volonté humoristique, on va découvrir cet auteur avec tous les travers et tous les ennuis du métier d'auteur qui peuvent être perçu et ça nous permet un petit peu de les comprendre en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a non seulement une présentation du métier d'auteur, des contraintes du métier d'auteur, et puis également toutes les blagues qui peuvent y aller. Par exemple, il y a un mec qui veut faire auteur de BD et puis l'autre il fait ma mère a dit que les auteurs de BD sont des chômeurs, des crèves la faim. Et là, il y a l'auteur qui fait « Absolument pas, elle y connaît rien, ta mère. Les auteurs, ils n'ont pas droit au chômage. » Et du coup, c'est cette espèce de cynisme et de regard sur le métier d'auteur qui est hyper intéressant et qui est vraiment, vraiment très, très intéressant.
Est-ce que ça porte un nom, le fait qu'un auteur de BD dépeigne les problèmes dus à ce métier dans une BD?
Ça s'appelle une mise en abîme.
Ah, une mise en abîme, voilà.
Bêtement. Mais tu vois, on a aussi l'auteur qui se retrouve à signer un contrat où le commanditaire dit si les illustrations ne te plaisent pas, on annulera et puis on ne te paye pas. De toute façon, c'est payé au forfait parce que c'est un ouvrage collectif. Le prix sera tellement bas que vous n'aurez même pas de droit d'auteur et puis pas de droit dérivé, enfin rien. Et le gars, à chaque fois, il fait OK. Et il est parti pour signer un truc. Qui va pas lui plaire, hein, forcément.
Oh, le pauvre.
Mais du coup, c'est un album qui est hyper intéressant, qui a un regard hyper critique sur le milieu de la BD. On a cette espèce de mise en abîme qui fonctionne vraiment très bien. Et puis, on a plein de petits détails en fait, qui sont assez géniaux. Assez géniaux, puisque tu vois, par exemple, la petite dédicace que fait l'auteur au tout début, c'est « Daniel tient à préciser que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas fortuite, assez malhonnête et purement amicale. Gros poutou. » Et c'est écrit tel quel dans le bouquin.
Oh, pas
et
mal.
Du coup, c'est ça qui est assez fort. Donc, ça marche vraiment bien et c'est cool, quoi.
Bah écoute, il y a des choses, je pense qu'il faut en parler tout simplement. Parce que après tout, à moins de vraiment soit faire partie du milieu, soit s'y intéresser vraiment, on ne connaît pas un petit peu ce qui se passe en cuisine. Donc une BD qui en parle, sans forcément chercher à dénoncer, mais au moins qui parle des choses qu'il a vécues, c'est toujours intéressant. Puis bon, être un peu irrévérencieux de temps en temps, ça a du bon.
Ah mais là, complètement. Et c'est ça qui est vraiment très fort. Je vais finir juste avec une petite blague où tu as ce monsieur qui s'ennuie en fait à Angoulême, et puis on a... quelqu'un qui arrive et puis fait, et là la personne fait excusez-moi les WC c'est par où et tu vois c'est le truc mais ça marche vraiment très très bien tu vois pour dire qu'il y a un petit peu de référence aussi on a la citation de Kurt Cobain je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas Est-ce que ça résume pas le travail artistique ? Hein, Ben, t'en penses quoi ?
Absolument, je suis tout à fait d'accord.
Ben, il est d'accord. C'est ce qu'il dit.
Eh ben, je pense que Lady Gaga penserait pareil.
Lady Gaga. Hop. Allez. Donc, on a quasiment fini. Normalement, ce que j'ai fait, ça va bien fonctionner, tu vas voir. Non, mais regarde. Normalement. Eh ben, ça marche pas. Mince, j'ai mis en place un truc qui veut pas fonctionner.
Ah, il faut savoir que ce cher Seb avait prévu que notre générique de fin, à savoir Porky, ouvre sa bouche à 57 piles, d'où le meublage des quelques secondes, et que plusieurs secondes après 57, il ne l'ouvre toujours pas.
Bah, c'est bizarre. Bon, bah, j'aurais plus qu'à... C'est pas grave, ça va arriver. Non, ça je le garde pour dans 2 secondes. Donc, il est 19h57, je voulais faire un truc de fin qui marche pas, je sais pas pourquoi, ça a pas voulu marcher. On se retrouve la semaine prochaine, on va vous laisser avec Ben tout seul, c'est ça ce soir ?
Ça part en live toujours. Comme toutes les 2 semaines.
Mais tes collègues, ils sont pas encore arrivés ?
Non, voilà, pour pas faire trop de bruit dans le studio, ils attendent à la...
Ah bah écoute, ils sont sages. Exactement. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. On va finir plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Hein. Oui. Et puis on se dit...
lundi prochain.
Continuez de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Mais voilà, j'allais le dire. Je me suis dit, il va pas partir sans dire sa phrase de fin quand même.
Bah, il faut que je la dise, ma phrase de fin. Mais il faut que ça marche. Parce que je l'ai pas mis ailleurs. Allez, générique. C'est parti, mon kiki. Ou pas. Il veut rien.
Tentative de meublage.
C'est les joies du direct, les joies de la... Les joies.
On va faire comme il y a
deux... Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas fait pour ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G. www.radio-g.fr. Radio G. 101.5 FM.